Il a fini sa phrase, son propre poison dans la cage est tombé raide mort à ses pieds. Et alors là, ça a été l'affolement total, il est sorti de la cage, il a tout laissé ouvert, il est parti voir s'il trouvait un vétérinaire dans le palais. Et quand il est revenu avec toute la foule de la cour qui le suivait, ben, l'oiseau n'était plus dans la cage. L'oiseau était dans un arbre de l'autre côté de la fenêtre, il attendait. Et quand il s'est approché de la fenêtre en lui demandant de rentrer, l'oiseau lui a dit « T'as rien compris à ce que me disaient mes frères. » Mes frères, quelque part, me disaient, en faisant un simulacre de mort, que la liberté, ça se demande pas, ça se prend. Voilà. Donc là, on est sur des comptes de sagesse, à nous de réfléchir sur la liberté. Hein, mais il n'y a pas de vérité. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un énoncé de cet ordre-là. Donc on va avoir plein de comptes de cet ordre-là. Deuxième compte, peut-être qu'il en aura une idée à peu près équivalente. Hein. C'est rentrer dans un endroit très désertique, où tout ce qu'il y a à manger, c'est vraiment quelques herbes maigrichonnes qui se baladent autour, c'est vraiment pas la folie, tout le monde meurt de faim. Et par contre, au milieu du village, là, il y a un arbre immense, avec des fruits magnifiques, mais personne n'ose y toucher. Parce qu'on sait que là, sur cet arbre, il y a une branche, on ne sait pas laquelle, qui de toute façon porte des fruits empoisonnés. Et sur un jour où la famine est encore plus forte qu'à l'accoutumée, on ne sait plus comment faire, parce que les fruits sont là à narguer vraiment les habitants. Hein. Et les vieux qui sont là, il y en a un qui se décide et qui dit « Moi, de toute façon, maintenant, il ne me reste plus que quelques jours à vivre, alors maintenant, demain, qu'importe, je vais essayer. Et déjà, je vais trouver à un moment donné où est cette... Si je meurs, tant pis, si je ne meurs pas, tant mieux. » Et il va goûter les fruits les uns après les autres jusqu'à ce qu'il trouve cette fameuse branche empoisonnée. Et enfin, tout le village peut se rassasier et tout le village est heureux. Mais vous savez comment sont les hommes? La peur monte très vite aussi. Les enfants sont là à jouer sous l'arbre, les enfants sont des fois inconscients. Et ça commence à discuter en se disant « mais cette branche, elle est dangereuse. Si les enfants la mangent, ça peut devenir grave, quelqu'un peut s'empoisonner. » Est-ce qu'il ne serait pas bon de la couper? Et ça discute, et ça discute, et puis un jour, la décision est prise. On va couper l'arbre empoisonné, comme ça on sera tranquille. Et on coupe l'arbre empoisonné. Seul problème, c'est que 3 semaines plus tard, l'arbre meurt. Autre conte de sagesse. Voilà, donc on est dans des espaces où ces contes-là sont en même temps riches, profonds, mais comme pour ceux qui étaient là sur la conférence autour du merveilleux, on n'est pas sur la même forme de symbolique. On est vraiment sur des traits qui touchent beaucoup plus au social. On est plus sur des cadres qui vont nourrir la communauté humaine, la relation au groupe, hein, mais pas obligatoirement, comme on l'a vu avec le conte merveilleux, des choses qui nourrissent l'intérieur, le psychique. Hein. On est vraiment dans d'autres espaces de récit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir comme autre forme de conte? Les contes étiologiques. Alors, les contes étiologiques, c'est des contes... on dit que les jardiniers, quand on leur demande des choses ridicules, vous racontent des contes étiologiques. Hein, si vous leur demandez s'il y a des arbres à lapins quelque part dans un jardin, il y a des chances qu'ils vous donnent un conte étiologique. Hein. Alors, les contes qu'on peut poser, par exemple, moi j'aime bien celui-là, c'est le lapin... pourquoi un gamin qui vous pose la question, pourquoi un lapin a une petite queue et des grandes oreilles? Deux solutions, soit vous faites un cours de biologie, mais s'il est tout petit, il y a des grandes chances que ça soit difficile, soit on va lui donner ce qu'on appelle une vérité provisoire, c'est-à-dire une histoire. C'est-à-dire parce que lui, c'est sérieux, la demande qu'il vous fait, c'est pas pour vous embêter, c'est qu'il n'a pas de représentation, il n'arrive pas à s'expliquer, et que ça l'angoisse. Hein, donc il faut trouver quelque chose. Hein. Voilà, donc il y a une histoire qui dit tout simplement qu'à l'époque, il faisait très très froid, un peu comme aujourd'hui, beaucoup plus froid d'ailleurs, parce qu'on n'arrivait rien à manger sur la terre. Hein. Et le pauvre lapin, ses carottes... il n'arrivait pas à les arracher. Non. Donc il est allé voir le renard, il m'a dit « Qu'est-ce que je pourrais manger, renard ? Parce que là, moi j'arrive, je crève de faim. » Et le renard lui a dit « Écoute, toi qui as de grandes queues, parce que c'est l'époque qu'il avait une très grande queue, et des toutes petites oreilles, tu peux faire une chose, c'est que tu vas au bord du lac, tu fais un trou, tu mets ta grande queue dedans, et comme tous les poissons ont très faim aussi, ils vont te mordre la queue, tu les tires, tu les manges, c'est moins bon que les carottes, mais bon, ça fera passer l'hiver. » Ben, le lapin, il a cru, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il est allé faire un trou, il a mis sa queue dedans, et puis il a attendu un petit moment, puis il a commencé à grelotter, à vraiment très très grelotter, et puis à un moment donné, il a eu tellement froid qu'il a voulu partir, et là, la glace avait repris autour de la queue. Alors il a essayé de se débattre, il a essayé de tirer, pas moyen, donc il a appelé le renard. Et le renard, qui n'est pas en trop mauvais bougre, hein, il est arrivé, il a pris les petites oreilles, avec les deux plis, et il a tiré, et il a tiré. Les oreilles se sont agrandies, agrandies, puis à un moment donné, il a tiré tellement fort que la queue a cassé, ben, c'est depuis ce temps-là hein, que le lapin a des grandes oreilles et une toute petite queue. Voilà. Alors le gamin, ils vont faire, pas ben, vrai ça. Bien sûr que c'est pas vrai. Mais n'empêche que ça y est, il y a une histoire à mettre sur un espace qui n'était pas du tout assumé en tant qu'image. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle des vérités provisoires, c'est des mensonges esthétiques, on va dire. Hein. Voilà. Donc on va essayer d'expliquer comme ça pourquoi les choses sont. Mais c'est pas du mythe. Hein. Pareil, on a parlé du mythe, il y a des choses qui ressemblent dans le mythe, mais là, qui sont des objets de foi. C'est-à-dire qu'on croit que c'est comme ça que ça s'est fait. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas un objet où on croit que ça s'est fait comme ça. Mais ça explique en même temps aussi tout ce qui est dans la nature. Vous avez des contes presque de cet ordre-là, presque pour toutes les choses. Et ça veut dire qu'on ça nous oblige à observer les éléments de la nature. On pourrait parler, par exemple, de pourquoi le merle a un bec d'or et des plumes noires. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout comme ça. Il était tout blanc, avec un bec noir. Mais un jour, il a vu la pie qui arrivait dans le nid à côté, et puis la pie transportait des trésors tout le temps. Il transportait tout le temps des trésors. Donc, il est allé voir la pie, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de te porter? Donc, où c'est que tu trouves ça? Et la pie lui dit, écoute, c'est pas compliqué, à côté, il y a une caverne. Hein. Dedans, il y a des trésors, tu prends tout ce que tu veux, il y a même un lac d'or. Hein. Seul problème, c'est qu'il y a un dragon et il crache du feu, tu n'intéresses pas à le réveiller. Ben, le maire, il a dit, je vais essayer, hein, on ne sait jamais. Et il est rentré tout doucement dans la caverne. Et puis à un moment donné, il s'est entravé, il a eu tellement peur qu'il a mis sa tête dans le lac d'or, juste le bec, là où il fallait, et puis bien sûr, le dragon qui était à côté lui a craché le feu et lui a brûlé toutes les plumes. Et c'est depuis ce temps-là qu'il a un bec jaune, avec des plumes noires. Hein. Voilà. Alors des contes comme ça, vous en avez des tonnes, hein, vous en avez quantité. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir? Des contes moins rigolos, ceux qu'en général on raconte à la fin de la soirée, les contes fantastiques. Des contes à faire peur, hein, qui sont souvent très transgressifs. Hein, c'est des contes qui vont nous amener souvent dans la transgression aussi de tabous, d'interdits. Donc c'est pour ça qu'on les met souvent au fond de la soirée. Hein. Voilà, donc moi j'en ai un que je peux vous raconter parce qu'il est court, il y en a plein d'autres. Mais alors en général, vous savez, si vous êtes un jour dans une soirée, dans une veillée un peu traditionnelle, comme ça commence toujours comme ça. Vous savez, c'est. Ah, mais quand vous êtes venu là, vous avez dû passer entre les deux cimetières. Et puis juste à côté, vous avez bien vu une vieille maison là, qui est toute en ruine. C'est-à-dire, pour faire plus peur, on va déjà le ramener à la réalité, le ramener à des images réelles en tous les cas. Et puis on va vous dire, à l'époque, là, il y avait un couple, d'abord ils étaient pauvres. Les pauvres, alors vraiment là, ils ne mangeaient pas tous les jours de la viande, hein. Même des fois de l'année, ils n'en mangeaient pas. Justement, un soir, il y a la femme qui a dit à son mari, écoute, là, j'en peux plus, on n'a plus mangé de viande depuis un an. J'ai quelques économies, tu vas descendre à la ville, hein, tu vas m'acheter 3 tranches de foie. Comme ça, on en aura une pour nous, aussi. Et Marie a dit, bon, ben, je vais y aller, hein. Il a pris des sous, il est descendu, et puis comme ça faisait un an qu'il n'était pas descendu en ville, ben, il a rencontré les copains. Et puis les copains, ben, ils ont payé un coup, et puis il en a payé un autre, et puis voilà, quoi, c'est la convivialité, on peut faire autrement. Et puis bon, la convivialité a tellement bien marché, quand ça a été l'heure de partir, il n'avait plus de sous, et en plus tous les magasins étaient fermés. Alors là, il était bien embêté. Alors il a hésité un grand moment, puis il a décidé quand même qu'il allait rentrer. Alors justement, il est passé, comme vous êtes passé en arrivant, entre les deux cimetières, et c'est devant cette maison, là, pas très loin. Et là, dans le cimetière, il a vu qu'il y avait une tombe qui était fraîche. Vous savez, les hommes commençaient, ça trotte. Alors il a sorti son couteau, il est allé dans la tombe, il a pris 3 tranches de foie, il les a mis dans un papier journal qu'il avait dans le coin, et il est rentré chez lui. Ben, ce soir-là, il a dit qu'il n'avait pas faim. C'est bizarre. Et par contre, le reste de la famille s'est vraiment régalé, tout le monde s'est vraiment régalé, tout le monde était content. Et tout le monde est allé se coucher, pour certains le ventre rassasié, les autres un petit peu bizarre. Et puis dans la nuit, on a entendu « Rends-moi mon foie !» Puis le lendemain, c'est fait divers. Un homme a été retrouvé sans son foie dans son lit. Voilà. Alors là, je vous le fais rapidement, mais quelqu'un qui est un très bon conteur, je peux vous dire qu'à la fin de la veillée, vous ne sortez pas sans qu'il y ait quelqu'un à côté de vous. Donc ça, c'est vraiment les contes qui sont là pour jouer sur la peur, pour jouer sur nos transgressions, hein, pour aller jusqu'au bout de ces espaces transgressifs. Après, d'autres contes qui sont peut-être plus pour les enfants, mais les conteurs, on les aime bien malgré tout, ce qu'on appelle les contes de randonnée. Alors, les contes de randonnée sont très très structurés. Hein, c'est des jeux sur la langue qui permettent normalement à un conteur de faire une signature. Pareil exemple, parce que sinon je ne m'en sortirais pas, vous en connaissez tous, mais si je vous dis pas que c'est comme ça. Alors, il y en a un qui est très connu par tous les enfants, c'est le grand-père qui un jour a planté un radis dans son jardin, et puis le radis a grossi pendant une année, il a envie de l'arracher. Alors le grand-père, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le radis et il commence à essayer de tirer, mais il est tellement gros qu'il n'y arrive pas. Alors il appelle la grand-mère, il lui dit « Grand-mère, viens m'aider ». Alors la grand-mère s'accroche au ventre du grand-père, le grand-père s'accroche au radis, et ils tirent tous les deux, et pas moyen. Donc le grand-père, il dit à la grand-mère, appelle la petite-fille, elle va venir nous aider. Donc la grand-mère appelle la petite-fille, la petite-fille s'accroche au ventre de la grand-mère s'accroche au ventre du grand-père, le grand-père prend le radis, et ils se mettent à tirer, pas moyen. Alors la grand-mère, elle dit à la petite-fille, t'as qu'à appeler le chat, peut-être il peut nous aider, non, le chien d'abord. Et la petite-fille appelle le chien arrive, il s'accroche au ventre de la petite-fille s'accroche au ventre de la grand-mère au ventre du grand-père, le grand-père au radis, ils se mettent tous à tirer, par moyen. Le chien appelle le chat, pareil, le chat appelle la petite souris, et quand la petite souris est là, en train de tirer la queue du chat, le radis sort. Alors je vous raconte très mal, parce que logiquement c'est vraiment quelque chose de très rythmé, mais c'est des choses qui sont en ascendant, et souvent en descendant ou pas, c'est très mathématique. Et là, il y a des mathématiciens qui se sont amusés à mettre ça en logique, donc on peut les mettre en équation, on peut les mettre en algèbre, ces comptes-là sont assez intéressants. Alors ça, je disais que les conteurs s'amusaient avec ça pour à la fois faire voir qu'ils savaient parler et en même temps pour donner des cycles, hein, des cycles de liaison. Alors, il y en a un qui est peut-être plus typique du cadre cyclique, c'est la petite souris qui un jour voulait peindre un tableau. Et cette petite souris, elle avait un pinceau, elle avait du bois, mais elle n'avait pas de soie sur ce bois. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir le cochon. Elle lui a dit « Cochon, tu me donnerais de la soie pour faire mon pinceau ?» Le cochon lui a dit « Tu veux bien que tu me donnes de la soie, mais donne-moi d'abord des pommes de terre. » Elle est allée voir la pomme de terre, elle m'a dit « Tu ne venais pas aller voir le cochon pour qu'il te mange, et puis comme ça je donne un peu de soie. » Elle lui a dit « D'accord, mais d'abord il faut que tu me donnes du fumier. » Elle est allée voir la vache, elle lui a dit « Vache, tu ne pourrais pas donner du fumier pour que la pomme de terre soit contente, et puis qu'elle aille voir le cochon et qu'il me donne de la soie pour faire mon petit tableau. » Et la vache, qu'est-ce qu'elle lui a dit ?« Bah, moi je veux bien, mais d'abord donne-moi de l'herbe, pardon. » Et puis la petite souris est allée voir l'herbe, elle lui a dit bah, « Herbe, tu ne voulais pas aller voir la vache pour que la vache te mange, qu'elle fasse du fumier, que le fumier aille voir la pomme de terre soit mangée par le cochon et que le cochon me donne de la soie. » L'herbe, elle a dit « Mange bien, mais donne-moi de l'eau. » Il est allé voir la rivière, il lui a dit « Oh, tu ne voulais pas arroser le pré pour que le pré soit mangé par la vache fasse du fumier, que le fumier donne des pommes de terre, que les pommes de terre soient mangées par le cochon et que le cochon me donne de la soie. » Voilà. Et puis heureusement, elle a de la chance, l'eau est très généreuse, donc elle arrose de près et ça redescend. Voilà. Donc on est dans des cycles, mais mine de rien, en jouant sur des mots comme ça, il y a tout un cycle. On apprend que le cochon doit se voir, on apprend que le cochon mange les pommes de terre, qu'il a de l'eau, un peu de fumier. Et il y a tout un cycle naturel qui va être comme ça, appris dans le jeu. Donc c'est à la fois des lieux d'apprentissage aussi. Mais là, on est plus sur un répertoire déjà beaucoup plus enfantin. Il y a beaucoup plus de choses de cet ordre-là, les comptines aussi, qui sont dans cet espace-là. Puis un dernier conte, peut-être, que je vais vous raconter, on n'en retrouve pas tellement en France, mais dans d'autres contrées, c'est des contes qui ressemblent beaucoup aux contes merveilleux, mais qui ne sont pas des contes merveilleux, en fin de compte, et qui sont des contes qui sont des mythes masqués. Hein, c'est des contes qui sont des comment on pourrait dire, une façon d'aborder le mythe. On va peut-être finir sur celui-là, parce qu'il se rapproche du conte merveilleux, justement, et on verra où c'est qu'il est différent. Donc je vais raconter un qui est un conte amérindien. Alors ce conte-là, il nous raconte que là-haut, dans le nord de l'Amérique, il y avait un tout petit village de souris. Des souris tout à fait normales, des petites souris grises qui habitaient comme ça sur des gros rochers. Et puis dans toutes ces petites souris, il y en avait une, très particulière, qu'on appelait d'ailleurs nuage d'avril. Et cette petite souris, elle était comme toutes les autres, il y avait une seule différence, c'est que cette souris, depuis qu'elle était née, entendait un bruit bizarre que les autres n'entendaient pas. Alors, eh bien, elle voulut aller voir, mais ses parents, ils ne voulaient pas. Il a fallu qu'elle grandisse. Puis quand elle a été un peu plus grande, ses parents l'ont laissée partir, et elle est partie voir qu'est-ce que c'était que ce bruit. Donc elle a fait comme quand on cherche un bruit, on cherche où c'est plus fort, on s'avance et on s'avance. Et ce bruit, au bout d'un moment, elle a vu ce que c'était. C'était tout bêtement une grande cascade qui tombait. Et les autres n'entendaient pas. Et puis dans son village, il n'y avait pas d'eau, donc on ne savait pas ce que c'était. Elle a trouvé ça très beau, elle l'a regardé un bon moment, et puis bon, même si c'est très beau, au bout d'un moment, on se lasse. Donc elle a commencé à suivre le ruisseau, elle a continué à descendre dans le ruisseau. Et là, en descendant dans le ruisseau, elle est arrivée à un moment donné sur une pierre, là, au milieu du ruisseau, qui commençait d'ailleurs à devenir une petite rivière. Il y avait une pierre, et sur cette pierre, il y avait un animal bizarre qu'elle ne connaissait pas, mais qui était vraiment trop luisant. C'était un crapaud. Elle a trouvé cet animal absolument splendide, et puis elle est allée lui dire, elle lui a dit, crapaud, t'es tellement beau, je voudrais devenir comme toi. Comment je peux faire ? Le crapaud lui dit, écoute, c'est pas compliqué, si tu veux venir comme moi. Tu prends ton élan, tu sautes, tu vises une pierre un peu plus bas, tu vas voir, tu vas tomber sur la pierre, tu seras comme moi. La petite souris, elle a fait ce qu'elle lui a dit le crapaud, elle a pris son élan, elle a sauté. Elle n'est pas tombée sur la pierre, elle est tombée dans la rivière. Et puis comme chez elle, il n'y avait pas d'eau, elle ne savait pas vraiment très bien nager, donc elle s'est débattue.